Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
La question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui est simple, mais aussi et surtout très délicate. Comment honorer la mémoire d'une figure éminente de l'histoire du jazz sans se perdre dans une relecture stérile de ses œuvres ? C'est en quelque sorte le défi que se sont lancés nos invités du jour, qui depuis des années militent pour une meilleure compréhension du répertoire de Duke Ellington, en prenant bien soin de réactualiser ce patrimoine inestimable dans le paysage musical du XXIe siècle. Sont-ils des gardiens du temple, des fanatiques du swing ou tout simplement des amateurs de belle et grande musique ? Nous en saurons plus à l'issue de cette nouvelle épopée des musiques noires en compagnie de Claude Carrière et Laurent Mignard. Messieurs, soyez les bienvenus.
Merci. Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter. Laurent Mignard, vous êtes depuis 2003 à la tête du Duke Orchestra, une formation jazz qui fait vivre l'héritage musical légué par Duke Ellington. Et vous êtes un membre très actif de la maison du Duke qui veille à la préservation et à la diffusion des trésors signés Ellington. Quant à vous, Claude Carrière, vous êtes un peu notre référent, notre guide dans l'univers d'Ellington, puisqu'en votre qualité de pianiste, de président d'honneur de la maison du Duke, d'ancien président de l'Académie du Jazz, mais aussi en votre qualité d'homme de radio, notamment chez nos confrères de France Musique, où vous aviez consacré 440 émissions à Duke Ellington. Vous êtes un interlocuteur précieux que nous sommes ravis de retrouver devant un micro et à qui je vais poser la première question. On dit que Duke Ellington est le créateur le plus important dans l'histoire du jazz au XXe siècle. Il y eut pourtant parmi ses contemporains des gens comme Louis Armstrong, Count Basie ou Miles Davis. Pourquoi a-t-il cette aura particulière que l'on réserve parfois aux grands compositeurs classiques ?
Parce que justement, il est, contrairement aux autres que vous avez cités, il était aussi un compositeur. Et que, avec le recul, on s'aperçoit qu'il fait partie des grands compositeurs du siècle, point à la ligne. C'est ce que me disait Count Basie un jour. Duke Ellington est le plus grand, point à la ligne.
Est-ce que Duke Ellington rentre dans l'épopée des musiques noires ou dépasse-t-il le cadre de la culture noire?
Il est d'abord, et il se revendiquait d'abord comme le compositeur de la musique de son peuple. Donc on peut dire que dans ce sens-là, qu'il ne dépasse pas le cadre, mais pour les auditeurs du monde entier, je crois qu'il a largement dépassé ce cadre-là, d'autant plus que le jazz n'est pas forcément à 100% une musique noire. C'est la première grande musique métisse de l'histoire de l'humanité, peut-être. En tout cas, la musique qui a été mise à la disposition de tout le monde, puisqu'elle est née avec le disque, ça a été d'ailleurs certainement sa chance.
Laurent Mignard, quand on s'attaque au répertoire d'un tel géant, on doit se poser beaucoup de questions sur la légitimité d'entreprendre un tel travail, sur la façon d'être respectueux à l'égard d'un homme et de son œuvre. Comment avez-vous vécu la naissance de votre Duke Orchestra?
La naissance a été faite par hasard. Elle nous a été commandée par le festival L'Esprit Jazz à Paris, Saint-Germain-des-Prés plus particulièrement, et il nous a été demandé de recréer le concert de musique sacrée que Duke Ellington avait donné à Saint-Sulpice en 69. Donc j'ai monté une équipe ad hoc avec les musiciens ellingtoniens ou qui me semblaient les plus ellingtoniens de Paris, et j'ai transcrit l'œuvre à partir des disques puisque les partitions n'existent pas. Donc après 9 mois de travail, le concert a été donné, ça a eu un grand succès et on s'est dit voyons si on peut aller plus loin. Donc c'est comme ça que le projet a été monté. C'était pas une volonté de ma part.
Et le public est bienveillant et enthousiaste à l'idée de revitaliser le répertoire de Duke Ellington?
Le public est pas bienveillant, d'ailleurs il est jamais bienveillant. Moi je pense que le public il se conquiert à chaque concert. Ce qui m'étonne le plus, maintenant ça fait 7 ans que l'orchestre existe, hein. On a joué bien sûr dans les festivals en France, à l'étranger, à Beyrouth, à Cork en Irlande, dans le grand festival jazz à Vienne, on y sera à nouveau l'été prochain.
Dans le sud
France,
de la France. Oui.
Absolument. Moi ce qui m'étonne le plus c'est le fait que la musique d'Ellington aujourd'hui sur scène touche aussi intensément les connaisseurs qui sont très heureux de retrouver leur Madeleine de Proust des années 50, 60 ou 70, mais également les musiciens pour qui il est très important d'avoir ce socle de la tradition du jazz moderne comme justement un support pour continuer d'entreprendre de leur côté. Et surtout, je suis très étonné de voir le nombre de gens qui ne connaissent pas Ellington, qui ne connaissent pas le jazz, des jeunes dans la salle qui veulent en savoir plus. Et je dirais, si on n'y prend pas garde, dans 10 ans, tout le monde connaîtra le nom d'Ellington, mais personne ne saura ce qu'il y a dedans.
C'est triste.
Non, au contraire, c'est ça qui est passionnant. C'est justement tout le sens de l'engagement du Duke Orchestra et de la Maison du Duke.
Je le disais il y a quelques instants, vous veillez tous les deux aux destinées de la Maison du Duke. Est-ce que c'est un musée, un temple élevé à la gloire de Duke Ellington, Claude Carrière?
Musée non, temple non. C'est une maison où les passionnés de cette musique-là se réunissent pour approfondir la connaissance de cette musique, parce qu'on s'aperçoit que plus on avance et plus il y a des choses à découvrir. C'est absolument gigantesque l'héritage qu'il nous a laissé. On fait par exemple des séries de conférences.
Ça veut dire qu'on ne connaît pas
c'est
bien la musique
du... moderne. Non, on ne connaît pas bien la musique d'Ellington, comme on ne connaît pas bien la musique de Charlie Parker. Mais cette musique-là, elle est à la fois une musique composée, écrite, donc reproductible, et également une musique enregistrée par Ellington avec ses musiciens. Elle est doublement intéressante à découvrir.
Parmi les grands projets de la Maison du Duke, il y a la traduction de l'autobiographie de Duke Ellington, il y a un festival européen dédié à Duke Ellington et l'édition de 650 heures d'archives réalisées entre 1945 et 1970. De quoi s'agit-il exactement, Claude Carrière?
C'est notamment une collection qu'avait accumulé un médecin qui est décédé, docteur Clavier, un joli nom pour un amateur de musique, que je connaissais, qui était un cinglé total d'Ellington et qui a accumulé des centaines et des centaines d'heures de bandes avec tout un réseau de cinglés de son acabit américain, anglais, etc. Et cette collection, il faut l'exploiter, il y a beaucoup de trésors. On a même fait un premier disque avec un enregistrement complètement inédit. C'est un concert que Ellington a donné au piano solo. Et en deuxième partie, il est accompagné par son contrebassiste Aaron Bell, son batteur Sam Woodyard. Et puis, cette bande s'est promenée, elle a atterri chez le docteur Clavier, puis à la maison de Duke.
À Paris.
Et on a pu faire un tirage évidemment limité, question de droit, qui n'est distribué qu'à nos amis adhérents.
Nous sommes donc des privilégiés actuellement, puisque je vous propose, messieurs, d'écouter Dancers in Love, Duke Ellington, le 4 janvier 1962 à New York, une exclusivité offerte par la Maison du Duke, représentée ici par Claude Carrière et Laurent Mignard. Duke Ellington s'amuse avec le public new-yorkais installé au musée d'art contemporain, le MoMA, en janvier 62. C'était Dancers in Love. Laurent Mignard, est-il difficile d'interpréter les œuvres de Duke Ellington? Est-ce que c'est une musique exigeante?
C'est impossible. C'est une musique qui est au-delà du jazz. Le problème, c'est que si on veut jouer du jazz, quand on joue la musique d'Ellington, ça marche pas. Si on utilise les idiomes traditionnels de big band, les arrangements ne fonctionnent pas. Donc le premier travail, ça nous a pris des années, c'est de désapprendre, de se débarrasser de tout ce qui est le langage de type Count Basie, Fletcher Anderson, etc. Je veux pas être trop technique, mais il se trouve que cette musique est beaucoup moins ternaire qu'on ne le croit. Et puis, c'est une musique ensuite dans laquelle, dans l'orchestre, chacune des voix intérieures est très précieuse et très importante. Et il est plus important de faire sonner les voix intérieures que de faire sonner la voix du premier de chaque section, trompette, trombone ou saxophone. Et c'est cette richesse des voix intérieures qui va créer la largeur du son. Et c'est cette accumulation de personnalité, un peu comme un effet mosaïque, qui va donner l'effet Ellington, alors que si on ne faisait pas ce travail-là, on aurait un orchestre traditionnel de big band de type militaire, j'allais dire.
Ça veut dire qu'il est plus ardu de conserver le swing lorsque l'on joue du Duke Ellington, plus que pour d'autres légendes du jazz?
Mais oui, et puis en plus, il y a une autre dimension qui est très importante, qui est assez rare et spécifique à Ellington, c'est qu'on ne peut pas imaginer avoir un grand orchestre de jazz construit sur l'improvisation, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'interprétation. C'est-à-dire qu'énormément de mélodies sont des mélodies quasiment obligées, fixées dans les discographies, scellées dans le marbre. Et le premier travail que doit faire chaque musicien, c'est d'abord d'incarner les mélodies obligées. En effet, de temps en temps, il y a quelques galops de l'un ou de l'autre pour donner l'improvisation. Mais après, quand on rentre dans l'improvisation, il faut en plus rester dans l'esprit de ce qui a été fait. On peut pas jouer trop éloigné de ce que faisait Johnny Hodges, Paul Gonzalez, ou même Ellington lui-même au piano. Donc c'est un challenge pour chacun des musiciens et pas uniquement pour moi.
Est-ce que Duke Ellington était profondément un Afro-Américain attaché à ses racines ancestrales, Claude Carrière?
Oui, très profondément. Il l'a prouvé dans beaucoup de ses œuvres, comme Black, Brown and Beige, par exemple, qui est l'histoire du peuple noir. C'est son opéra Boula qu'il a jamais pu, dont il a jamais eu les moyens de monter parce que noir, dans les années 30 et 40, c'était beaucoup moins commode pour lui que pour un Gershwin, par exemple, de monter un opéra soi-disant noir et qu'Ellington n'a jamais accepté vraiment. C'était des négroïsmes noirs de fumée.
Donc c'était un militant bien avant le mouvement des droits civiques.
À travers sa musique, oui.
On lui a fait plusieurs fois le reproche de pas être assez en première ligne au moment de la quête des droits civiques. Mais lui répondait, je suis désolé, je vous ai pas attendu, ça fait longtemps que je suis sur ces sujets-là. Et en 1968, quand il écrit son second concert de musique sacrée, il y a un morceau qui s'appelle Freedom, et qui est un double langage extraordinaire quand on le remet dans la perspective de l'époque. C'est évidemment un langage œcuménique d'élévation vers la spiritualité, mais c'est évidemment un message adressé pour tout un peuple. Moi, ce que je retiens surtout d'Ellington en tant que porte-parole et impliqué dans le peuple noir, c'est que il est bien au-delà de ça, c'est-à-dire que oui, il a ça, mais il a également un œcuménisme racial absolument extraordinaire, et il a une posture d'altérité, un regard sur le monde et sur les peuples qui est tout à fait étonnant, très singulier dans le cadre du jazz, et vraiment, il s'est d'ailleurs toujours pensé comme « je ne peux rien être si je ne suis pas nourri par l'autre ou par le regard de l'autre ». Donc ça, c'est vraiment passionnant, et pour moi, son rapport au peuple noir, c'est un point de départ sur une posture humaniste.
La première fois qu'il s'est rendu en Afrique, c'était en 1966 à Dakar pour le Festival des Arts Nègres, et nous avons retrouvé un document sonore qui devrait vous séduire.
Oh, the first time. Yeah. This is my first time in any part of Africa. Of course, I've dreamt of it so much and written so much pseudo-African music, because at my distance, of course, it would have to be imitation.
Bon, c'était pour la première fois que nous sommes arrivés en Afrique, malgré le fait que j'ai beaucoup pensé de l'Afrique pendant 35 ans. Et j'écrivais la musique soi-disant pseudo-africaine, mais maintenant je suis jusqu'à la source.
Est-ce que la musique africaine d'aujourd'hui peut encore vous apprendre quelque chose?
Well, I can if unless I find it too sophisticated to actually capture something.
How do you translate that?
Sophisticated, c'est compliqué.
Oui, je peux toujours apprendre quelque chose si la musique n'est pas trop compliquée. La musique africaine n'est pas trop compliquée.
Vous ne comprenez pas toute la musique africaine.
It's known around the world as the most sophisticated rhythms in the world.
Personne ne peut comprendre toute la musique africaine, mais la musique africaine est très connue partout du monde comme la musique la plus sophistiquée ou, comme on dirait, compliquée là.
Mais vous croyez qu'il est nécessaire d'être noir pour jouer du bon jazz?
I don't believe in categories.
Say something in French. Oui, une petite déclaration en français d'abord. Hein?
Madame, monsieur, Sénégal, je vous aime à la folie.
C'était le 28 juillet 1966 à Dakar. Duke Ellington découvre le continent africain à travers son voyage au Sénégal. Quel commentaire vous inspire ce document, Claude Carrière ou Laure Mignard? Claude Carrière.
Oui, bon, Ellington, c'était une éponge, et quand il revenait de voyage, et évidemment, il lui restait des choses en mémoire, et il écrivait sa musique qui portait l'influence de ce qu'on l'a vu à partir du voyage de 63 en Moyen-Orient, Extrême-Orient.
Il dit clairement dans cette courte interview qu'avant ce pèlerinage à Dakar, il imaginait la musicalité africaine.
La musique africaine qu'il compose avant, la Liberian Suite de 1947, qui est un hommage au Libéria pour le 100e anniversaire de la fondation de la République du Libéria, c'est de la musique africaine complètement fantasmée. Qu'est-ce que c'est la musique africaine? C'est 1200 musiques africaines différentes. C'est comme si la musique du fond de l'Espagne n'a rien à voir avec la musique suédoise du nord de la Suède. Et ce sont des musiques européennes aussi, je veux dire, ça n'a aucun sens.
Oui, et puis surtout Ellington, quoi qu'on lui donne et quoi qu'il entende et quoi qu'il vive dans n'importe quel pays du monde, il va jamais s'empêcher de faire une transposition esthétique de ce qu'il entend. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il disait, moi je veux pas que vous me parliez d'un big band de jazz, moi j'ai un grand orchestre, je ne suis pas un jazzman, je suis un musicien, je suis un compositeur. Il a toujours trouvé que le mot jazz était réducteur par rapport à ce qu'il faisait. Et donc son point de vue c'est, je fais ma musique nourrie par tous les gens qui m'entourent.
Messieurs, je vous propose maintenant de nous rendre en Iran, et notamment à Isfahan, une ville qui a inspiré Duke Ellington pour son album Far East Suite, enregistré en décembre 1966. Et c'est une composition que vous avez su réinventer, Laurent Mignard, avec le Duke Orchestra, enregistrée cette fois-ci à Versailles, près de Paris. C'était le 7 janvier 2009.
Et le soliste que l'on écoute s'appelle Didier Desbois.
Isfahan de Duke Ellington par Laurent Mignard et le Duke Orchestra, c'était à Versailles en janvier 2009. Et c'est un échantillon de ce que vous pourrez découvrir sur scène le 26 mars prochain à Paris, puisque vous présentez Duke Ellington is Alive à l'Alhambra, salle de spectacle légendaire de carrière.
Oui, moi j'ai vu Duke Ellington le 29 octobre 1958, deuxième concert à l'Alhambra, c'est la première fois que je le voyais.
Laurent Mignard, le concert que vous donnerez avec le Duke Orchestra le 26 mars, c'est un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement la manière dont tout cela va se dérouler ?
Je peux pas trop vous en dire parce que c'est encore un peu secret. Le principe est simple. Ellington, donc comme le disait Claude, octobre 58, tout Paris est absolument renversé par cette musique. Et il se trouve que le nouvel Alhambra est une très belle salle, très acoustique. Et je me suis dit, et s'il revenait ? S'il revenait ? J'ai construit avec l'orchestre un spectacle dans lequel Ellington sera avec nous sur scène. Et hologramme. On va travailler avec un procédé de vidéo art, c'est-à-dire qu'on va utiliser des images d'archives qu'on va mettre en scène, qu'on va retraiter d'ailleurs, parce qu'on va pas faire une suite de reportages. Déjà qu'on n'est pas des gardiens de chapelle dans le cadre de la maison du Duke ou à l'orchestre, c'est pas pour le faire en concert non plus. Par contre, l'intérêt, c'est de faire une création avec Ellington lui-même sur scène, qui communique ses valeurs. C'est ça qui est l'intérêt. Et c'est vrai que ça crée tout de suite une instantanéité qui est rare. C'est plus intéressant de se projeter dans le présent d'hier que de parler d'histoire.
Vous êtes le chef d'orchestre du Duke Orchestra. Est-ce que Duke Ellington pourra peut-être, durant ce concert du 26 mars, se substituer à Laurent Mignard et diriger lui-même l'orchestre, le Duke Orchestra?
Alors on en a parlé. On en a parlé et nous avons convenu que Ellington dirigera l'orchestre pour une séance d'enregistrement sur le morceau Rondolette, et qu'il dirigera également l'orchestre pour une répétition et la mise en place d'un morceau qui s'appelle All Circus Train.
Je rappelle, si vous prenez cette émission en cours, que Laurent Mignard n'a pas perdu le sens commun, que Duke Ellington est bien décédé en 1974,
il est fou, il est vraiment fou.
Mais que la mise en scène de ce concert du 26 mars à l'Alhambra permettra peut-être ce genre de choses.
Non, puis il y a aussi d'autres choses. Puis évidemment, ce qui est important, c'est pas de voir Ellington à l'image. Ce qui est important, c'est l'esprit. C'est cet esprit qui reste pour aujourd'hui et pour demain, pour tous les musiciens, pour tous les passionnés de musique, parce que ces valeurs sont précieuses pour nous tous. Et même au-delà de ça, on présentera un morceau qui est absolument inédit, qui n'a été enregistré nulle part à ma connaissance, qui est une page qui n'a jamais été présentée dans une suite qui s'appelle la Gutlass Suite, dédiée au château de Gutlass dans le centre de la France en 71. Et à Washington, j'ai retrouvé une partition que l'on a travaillée et que l'on a, j'allais dire, terminée, puisqu'il y avait des fragments. Et donc on va présenter cette œuvre absolument et totalement inédite qui s'appelle Go Go, Go comme Gutlass. Et là, personne n'a pu entendre ce morceau à moins de venir le 26 mars à l'Alhambra.
Le 26 mars donc à l'Alhambra, à Paris, Duke Ellington sera de retour 53 ans après sa dernière prestation dans ce lieu mythique. Claude Carrière, Laurent Mignard, merci mille fois d'avoir évoqué avec tant de passion l'épopée Duke Ellington. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci pour votre invitation.
Si vous voulez en savoir plus sur le légendaire Duke Ellington, une seule adresse, maisonduduke.com ou bien dukeellington.com, le site officiel consacré à ce grand pianiste et chef d'orchestre. Un rendez-vous jazz à noter avant de se quitter, le festival Banlieue Bleue a débuté cette semaine en Seine-Saint-Denis, près de Paris, avec au programme le rappeur Napoléon Maddox qui rendra hommage à Nina Simone, le batteur Aldo Romano qui saluera Don Cherry ou encore Django Bates qui ressuscitera Charlie Parker, sans oublier Cheoun Kouti, le fils de Fela. Banlieue Bleue 2011, c'est jusqu'au 8 avril. Merci à Nathalie Laporte qui pianote avec virtuosité sur la console technique du studio 149. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.